Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre webdiffusion de cette semaine. J'espère que les choses se passent bien pour vous dans le confinement qui a lieu un peu partout maintenant. Les choses se relâchent de plus en plus aux États-Unis. Nous pouvons maintenant aller dans les restaurants qui sont limités à 50% de leur contenu maximum, point de vue invité. Et de plus en plus, les sociétés, les commerces commencent à s'ouvrir de nouveau. Et nous espérons retrouver une vie plus ou moins normale avant très longtemps. Nous allons commencer notre webdiffusion comme le faisons d'habitude par une prière. Alors demandons à Dieu de bénir notre étude. Père Saint, Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi en ce jour de sabbat pour te remercier pour tes bénédictions, pour ta vérité, pour la révélation que tu nous as ouverte afin de nous permettre de comprendre ton plan magistral pour l'humanité, pour nous appeler vers ton Fils afin de pouvoir être converti, changé, transformé et de donner notre vie entre tes mains. Nous te demandons, Père, maintenant de bénir cette étude. Nous allons étudier ta parole ensemble. Nous te demandons d'ouvrir le cœur et l'esprit, de pouvoir comprendre ce que nous verrons dans ta parole, de le retenir et aussi de le mettre en pratique. Nous te remercions de tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je voudrais commencer en parlant ou en racontant une histoire étonnante et encourageante de l'Ancien Testament dans la Bible. Il s'agit de l'histoire de Ruth. Vous vous souvenez sans doute qu'elle était une jeune femme moabite qui a eu une vie difficile pendant une période particulièrement difficile. Elle a vécu la mort de son mari quand elle était encore jeune et à ce moment-là, elle a décidé de s'attacher à sa belle-mère Naomi quand celle-ci est rentrée en Judée. Et là, une transformation époustouflante a eu lieu chez Ruth. Depuis le moment où Boaz l'a rachetée, Ruth a eu une nouvelle identité, une nouvelle position sociale et un nouveau statut. Nous lisons que tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent: nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Elle commençait une toute nouvelle vie, une vie qui allait l'exposer à des choses magnifiques qu'elle ne comprenait pas encore à ce moment-là. Pourquoi est-ce que les gens qui étaient là, pourquoi est-ce qu'ils ont prononcé ces paroles-là? Que ta maison soit semblable à Rachel et à Léa. Quelle était la signification de cela? Quelle était la signification de tout ce discours que les gens répétaient devant Ruth? Et quel peut être le lien et la leçon pour vous et moi? Car là-dedans, dans cette histoire de Ruth, il y a un parallèle très important concernant notre vie spirituelle. Alors nous allons revenir à cela vers la fin du sermon, mais gardez cette histoire derrière la tête alors que nous allons nous pencher sur un autre sujet d'étude aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je commencerai ce sermon ou cette étude biblique avec cette histoire biblique? Eh bien, comme j'ai dit, nous allons le regarder tout à l'heure, mais pour le moment, changeons de fusil d'épaule et parlons du baptême. Nous allons parler du baptême d'eau aujourd'hui. Je suis certain que si vous avez été baptisé dans l'Église de Dieu, vous vous souvenez de ce jour très important. Je vous ai déjà raconté mon histoire dans le fleuve Mekong en Thaïlande. Je me souviens très bien de ce jour-là quand j'étais baptisé, quand j'ai mis ma vie entre les mains de l'Éternel. Et je suis certain que si c'est le cas pour vous, que vous vous souvenez très bien de ce jour. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir d'avoir été impliqué dans le baptême de plusieurs d'entre vous qui regardez aujourd'hui. La plupart des églises chrétiennes, entre guillemets, dans le sens large, croient dans ce qu'elles appellent le baptême. Mais il y a des croyances très différentes entre églises. Certaines églises baptisent les enfants, d'autres non. Certaines baptisent par aspersion, et je mets « baptise » entre guillemets, par aspersion, c'est-à-dire quelques gouttes d'eau sur la tête. D'autres baptisent par affusion, de verser de l'eau sur la tête. Souvent, ils le font trois fois, représentant la Trinité. D'autres croient que c'est symbolique seulement et que ce n'est plus nécessaire. Il suffit de donner son cœur au Seigneur et l'eau n'est plus nécessaire maintenant. Quand le christianisme a été persécuté, certains croyaient même dans un baptême de sang et que si on mourait pour le nom de Jésus, le fait de verser son sang prenait la place du baptême d'eau. Ce n'était pas nécessaire. Eh bien, la question à se poser, comme toujours, quand nous regardons les enseignements de la Bible, les enseignements chrétiens, c'est qu'en pense Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense de tout cela? C'est cela que nous allons tâcher de voir aujourd'hui. La dixième des croyances fondamentales de l'Église de Dieu Association mondiale dit ceci à propos du baptême d'eau. Le baptême d'eau par immersion, succédant au repentir, illustre le pardon des péchés, l'ensevelissement du vieil homme et le début d'une nouvelle vie en Christ. Par la prière et l'imposition des mains après le baptême, les croyants repentants reçoivent le don du Saint-Esprit et deviennent partie intégrante du corps spirituel de Jésus-Christ. En se soumettant au Saint-Esprit et en acceptant d'être guidés par lui, ceux qui se sont repentis et se sont fait baptiser subissent une véritable transformation dans la vie, dans leur attitude et dans leur façon de penser. Voilà l'énoncé des croyances numéro 10 de l'Église de Dieu Association mondiale à propos du baptême d'eau. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce que je fais dans cette série. Nous allons prendre chaque phrase dans cet énoncé de croyances. Nous allons essayer de voir les termes clés et puis de regarder dans la Bible et trouver des passages qui soutiennent cet énoncé, ces différents bouts de phrases. Alors, la première phrase que nous trouvons dans cet énoncé de croyances, c'est le baptême d'eau par immersion, succédant au repentir, illustre le pardon des péchés, l'ensevelissement du vieil homme et le début d'une vie nouvelle en Christ. Alors, décortiquons. Tout d'abord, le mot baptême vient du mot grec « baptismos ». Et « baptismos » dans le grec veut dire « immersion ». Immersion, c'est-à-dire le fait d'être complètement couvert d'eau. Il faut être complètement submergé dans l'eau. Il ne peut pas avoir des parties du corps qui sortent. C'est ça le mot « baptismos », complètement l'immersion totale. Cela nous montre que le baptême d'eau doit être, par définition, par immersion. On ne peut pas immerger quelqu'un en lui versant de l'eau sur la tête ou en l'aspergeant de quelques gouttes. Ça serait un non-sens de dire « je l'ai immergé en lui aspergeant ». Ce n'est pas possible. Regardons quelques passages maintenant qui soutiennent cela ou qui soulignent ce fait. Jean chapitre 3, l'évangile de Jean chapitre 3, verset 23. Jean chapitre 3, verset 23. Là, nous lisons, « Jean aussi baptisait à Enon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. » Beaucoup d'eau. Il y allait exprès parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire d'avoir beaucoup d'eau? Si c'était par aspersion ou par une autre méthode, ben, il aurait fallu d'un pot d'eau, et puis on aurait pu baptiser autant de gens qu'on voulait. Non, il y allait parce qu'il y avait beaucoup d'eau, parce qu'il fallait que les personnes soient submergées complètement dans cette eau. Beaucoup d'eau était nécessaire pour baptiser beaucoup de gens. Et beaucoup de gens sont venus pour recevoir le baptême, l'immersion de la part de Jean. Allons un peu plus loin aussi dans Actes chapitre 2, où il est question d'un autre mot clé dans l'énoncé de croyance, qui est le repentir. Nous avons souligné le mot « immersion », puisque c'est la signification du mot baptême. Maintenant, nous voyons que le repentir est nécessaire. Le baptême, l'immersion succédant au repentir. Le repentir est une condition préalable pour pouvoir être baptisé. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, le sermon de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Premièrement, repentez-vous et ensuite que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le mot grec qui est traduit par repentir ou repentance dans le Nouveau Testament signifie ceci: changer de mode de vie à la suite d'un changement complet de raisonnement et d'attitude à l'égard du péché et de la justice. Je répète, ça c'est la définition du mot grec pour repentir ou repentance. Changer de mode de vie à la suite d'un changement complet de raisonnement et d'attitude à l'égard du péché et de la justice. Évidemment, quand il est question de péché et de justice, cela nous renvoie à la loi de Dieu. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. La justice, être juste, c'est de respecter, obéir à la loi de Dieu. Le repentir, quand cela a lieu, le véritable repentir selon Dieu, se manifeste par ce que la Bible appelle des fruits. Il y a des signes extérieurs qui montrent, qui sont la preuve ou les preuves qu'il y a eu véritablement un repentir à l'intérieur. Il y a des fruits. C'est ce que Jean-Baptiste a dit dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, à partir du verset 7. Luc chapitre 3, verset 7. Jean-Baptiste est en train de baptiser. Et au verset 7 de Luc chapitre 3, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il y avait des gens apparemment qui sont venus pour être baptisés, pas dans un but sincère, pas avec un cœur contrit. Et ils sont venus pour être peut-être vus des autres, pour être respectés par d'autres personnes, parce que c'était la chose à faire. Mais en fait, Jean était capable de voir que leur repentance n'était pas juste, n'était pas correcte. Il les appelait même un race de vipères. Ils étaient sournois. L'attitude charnelle était toujours là. Il n'y avait pas l'humilité et le désir de respecter la volonté de Dieu. Le repentir s'avère véritable quand il y a des fruits, des signes extérieurs d'un changement intérieur. Et quand on se prépare pour le baptême au début, eh bien, on doit réfléchir et se poser la question: quels sont les fruits de ma repentance? Quels sont les fruits? Quels sont les signes extérieurs? Qu'est-ce que je fais différemment maintenant parce que je me suis repenti devant Dieu? Parce que j'ai le désir de changer ma vie et de me mettre, de vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Il devrait avoir des fruits. Il devrait avoir des signes qui montrent cela. Changement de comportement. Souvent, un de ces fruits, ça va être le respect du sabbat. Avant de comprendre la vérité à propos du sabbat du septième jour, la plupart des gens ne le respectaient pas. Et puis, quand on apprend la vérité, si on se met à se reposer le septième jour de la semaine, ça, c'est un grand fruit, parce que de nos jours, souvent, c'est difficile de faire cela. Donc, ça, c'est un fruit que nous devrions voir dans nos vies. Mais nous devrions aussi avoir d'autres fruits dignes de la repentance, comme Jean-Baptiste l'a dit. Et comme j'ai dit, la repentance, ainsi que la justice, cela nous renvoie à la loi de Dieu, puisque et le péché et la justice touchent à la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. La justice, c'est de vivre en conformité avec les instructions que Dieu nous donne. Nous comprenons que bon nombre d'églises chrétiennes, au sens large, comme j'ai dit, dans le monde, ils veulent croire ou elles veulent croire que la loi est abolie, que nous n'avons plus à respecter la loi de Dieu. La loi a été abolie à la croix, etc., et que maintenant, il suffit d'avoir de bons sentiments vis-à-vis de Dieu, une bonne attitude, mais le respect des commandements n'est plus nécessaire. Alors que la Bible enseigne le contraire. Ce n'est pas notre obéissance qui peut nous mériter quelque chose, mais une condition pour recevoir le baptême, c'est de se repentir. Et ça veut dire de s'aligner sur la loi, arrêter de transgresser la loi de Dieu. comme David l'a dit dans le psaume 19, nous commençons à comprendre à partir du verset 8, je vais vous le lire, psaume 19, verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » Non, la loi de Dieu n'est pas un fardeau. Bien au contraire, la loi de Dieu nous montre la voie vers une vie épanouie et heureuse, où nous évitons les mauvais résultats des transgressions de la loi de Dieu. Et la loi de Dieu n'a pas changé, la loi spirituelle de Dieu n'a pas changé, une partie physique des sacrifices, etc., des lavements qui étaient fixés pour un temps limité, ce temps est passé maintenant. Mais la loi spirituelle de Dieu, les 10 commandements, nous épargnent bien des souffrances dans la vie quand nous les respectons fidèlement. Dans 1 Jean chapitre 1, regardons cela aussi. 1 Jean, premier épître de Jean chapitre 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se repentir, demander pardon à Dieu, confesser à Dieu nos fautes, et nos erreurs, demander pardon, demander son aide pour retrouver le bon chemin. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si nous ne regardons et nous ne voyons pas de péché, pas de faute, pas de faiblesse, eh bien nous disons que Dieu est menteur, parce que Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Et si nous disons le contraire, ben non, je regarde, je vais bien. Nous faisons Dieu menteur, parce que lui nous dit que nous sommes pécheurs et que nous devons nous repentir. Évidemment, quand nous considérons le repentir comme cette condition pour le baptême, nous comprenons que le baptême ne peut être une décision prise que par des adultes. Le baptême est une décision d'adulte, parce que seul un adulte est capable de comprendre péché, repentir, la nécessité d'être pardonné, de comprendre les finesses de la loi de Dieu que nous devons respecter non seulement dans la lettre, mais aussi dans l'esprit qui va beaucoup plus loin. Un bébé ou un enfant ne peut pas se repentir sincèrement. C'est un concept qui est trop compliqué. Un enfant ne peut pas comprendre le sens complet. Les enfants peuvent comprendre jusqu'à un certain point, mais ils ne peuvent pas comprendre l'étendue d'un engagement à vie. Et le baptême est effectivement un engagement à vie. Et comme notre vie sera finalement éternelle, si nous restons fidèles à Dieu, eh bien l'engagement du baptême, c'est un engagement éternel. Un engagement éternel. Les enfants ne peuvent pas comprendre cet engagement. Nous ne permettons pas aux enfants de signer des contrats jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Ils ne sont pas capables de comprendre toutes les retombées d'un contrat. Et ils ne sont pas capables non plus de comprendre l'étendue de cet engagement vis-à-vis de Dieu. Prenons maintenant Romains chapitre 6. Si vous êtes préparé au baptême avec moi, vous avez lu tout ce chapitre, nous l'avons lu ensemble. On l'appelle parfois le chapitre du baptême à cause de tout ce qu'il y a contenu, toutes les instructions, les symbolismes qui sont expliqués ici. Romains chapitre 6, verset 1. « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Il y avait des gens qui croyaient que La grandeur de Dieu venait du fait qu'il nous pardonnait par sa grâce. Donc, plus on péchait, plus Dieu pouvait pardonner et plus Dieu devenait grand. c'est une bêtise, évidemment, mais ce sont le genre de jeux parfois que les êtres humains aiment jouer pour pouvoir faire à leur tête et s'excuser de ce qu'ils ont envie de faire. Mais Paul dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Comme Christ est sorti de l'eau, à une autre vie, nous aussi, quand nous sortons de l'eau, c'est à une autre sorte de vie, dédiée à l'obéissance à Dieu. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. L'amende a été payée. Le salaire du péché, c'est la mort. Et celui qui est mort est libre du péché. Cette amende a été payée. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Un engagement du baptême, un engagement du repentir, c'est que quand nous sortons de cette eau-là, nous avons mis nos vies entre les mains de Dieu. Et nous n'allons plus chercher notre volonté avant tout. Nous allons chercher avant tout d'accomplir la volonté de Dieu. C'est l'engagement solennel que nous prenons au moment du baptême. Nous vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Avant notre baptême, nous vivions comme nous voulions, nous vivions à notre tête, comme on dit. Mais au moment du baptême, nous promettons fidèlement à Dieu, créons une alliance avec lui, qu'à partir de ce moment-là, nous allons chercher sa volonté avant notre volonté. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Aujourd'hui, on prétend parfois que, on n'est pas sous la loi, ça veut dire que la loi est abolie. Mais ce n'est pas cela que ça veut dire. La grâce, c'est le pardon immérité. Il y a une amende à la loi. Le salaire du péché, c'est la mort. Et comme nous avons tous péché, nous avons tous encouru cette amende de mort. Mais nous ne sommes plus sous le coup de la loi maintenant, nous sommes sous la grâce. La loi est toujours là, la loi est toujours en vigueur. Et à chaque fois que nous transgressons cette loi, nous attirons sur nous de nouveau une amende de mort. Mais par la grâce de Dieu, par le sang versé de Jésus-Christ, nos péchés peuvent être pardonnés. Dieu nous gracie. C'est dans ce sens-là que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Nous ne sommes pas sous le coup de la loi, devoir mourir. Nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la grâce divine, comme la grâce présidentielle. Nous n'avons plus à payer l'amende de nos erreurs. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Alors, ça explique clairement que être sous la grâce ou ne pas être sous la loi, ça ne veut pas dire que la loi est abolie. Est-ce qu'on peut pécher maintenant? Paul pose la question. Péché, c'est transgresser la loi. Si la loi est abolie, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché parce qu'il n'y a rien à transgresser. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Finalement, il n'y a que deux voies dans la vie humaine. Il y a la voie de la justice, de l'obéissance qui conduit à la justice. Et du moment où on quitte cette voie-là, on est dans la voie du péché qui mène à la mort. Il n'y a que deux voies et il n'y a que deux issues. La mort éternelle ou la vie éternelle. C'est l'issue de chaque vie humaine. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Nous promettons fidélité à la volonté de Dieu. Et Paul dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Nous ne devenons pas littéralement esclaves, mais spirituellement, nous promettons d'être des serviteurs fidèles de Dieu. De même donc que vous avez livré mon membre comme esclave à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Les fruits dont vous rougissez aujourd'hui. On a honte quand on se rend compte de comment on vivait avant. Et l'esprit qui nous guidait, qui nous poussait, on se laissait aller à des mauvais comportements facilement. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, nous avons le symbolique du baptême comme l'enterrement du vieil homme, la vieille personne que nous étions au début, et le début d'une nouvelle vie en Jésus-Christ, tout comme il est mort, il a été enterré, il a été ressuscité. Eh bien, nous symbolisons tout cela par le baptême. La vieille personne est enterrée dans ce tombeau liquide, et la personne qui ressort de l'eau doit être une nouvelle personne. Une nouvelle personne, une nouvelle existence. En passant, notons que certaines églises croient qu'il faut aussi chercher un autre baptême, autre que le baptême d'eau. Ils cherchent le baptême de feu, disent-ils, ce qu'ils comparent aux langues de feu qui sont descendues sur les disciples lors du jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Et ils prétendent que le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le fait de recevoir le don du Saint-Esprit de Dieu, est prouvé uniquement par le fait de parler en d'autres langues. Alors que ce n'est pas vrai. Il est vrai que tout au début, dans l'Église de Dieu, quand Dieu commençait en particulier à appeler des païens, des gentils, ceux qui n'étaient pas de souche israélite, ça c'était un fait tout à fait nouveau. Et les chrétiens d'origine israélite avaient du mal à croire que Dieu allait attirer directement des païens dans l'Église, puisque Dieu avait tellement insisté sur le fait que le peuple d'Israël devait être séparé des autres peuples. Et là, Dieu allait commencer à faire quelque chose de complètement nouveau, difficile pour les chrétiens israélites de comprendre. Mais en leur faisant parler d'autres langues, et c'était des langues humaines, c'était des langues compréhensibles aux gens, comme nous le voyons dans Actes chapitre 2, chacun les entendait parler dans sa langue maternelle, ce n'était pas du blablabla, c'était des vraies langues. En faisant parler les païens en d'autres langues, une manifestation de l'Esprit, c'était clair que Dieu attirait maintenant des gens de souche païenne dans l'Église, et personne ne pouvait le disputer. Mais ce n'était pas un signe nécessaire à chaque fois, à tous les coups. Ce n'était pas toujours le cas à l'époque, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On ne doit pas chercher à parler en langue pour être sûr qu'on a reçu le don du Saint-Esprit. Mais quel est le baptême de feu? Il y a un passage qui montre rapidement et clairement ce que c'est. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11 et aussi verset 12. « Moi, je vous baptise d'eau, dit Jean-Baptiste, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Quelle est la différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu? Est-ce que c'est le même baptême? Eh bien, regardons verset 12. « Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier. » Ça, c'est ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. « Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Quel est ce feu qui ne s'éteint point? Eh bien, dans le livre d'Apocalypse, c'est appelé l'étang de feu et de soufre. C'est la mort ultime. Ceux qui vont dans l'étang de feu, les êtres humains qui vont dans l'étang de feu, ils vont brûler, ils vont disparaître, et ce sera le néant à tout jamais. Le baptême de feu, ce n'est pas quelque chose qu'on veut rechercher. Au contraire, parce que le baptême de feu, c'est pour ceux qui ont refusé le baptême du Saint-Esprit ou qui ont commencé et puis ont refusé après, qui ont rejeté l'offre de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit mène à la vie éternelle finalement. Le baptême de feu, c'est l'étang de feu où vont aller les récalcitrants, ceux qui vont refuser de se soumettre à Dieu. Il n'y a, comme j'ai dit, que deux issues à la vie éternelle dans la famille divine ou la mort éternelle, le néant. Pas la souffrance éternelle, le néant. On meurt, c'est fini. Ces gens-là seront comme s'ils n'ont jamais été auparavant. Voilà donc pour la première phrase dans cet énoncé de croyance. Prenons maintenant la deuxième phrase. Par la prière et l'imposition des mains après le baptême, les croyants repentants reçoivent le don du Saint-Esprit et deviennent partie intégrante du corps spirituel de Jésus-Christ. La première bout de phrase que je voudrais souligner ici, c'est par la prière et l'imposition des mains. L'imposition des mains est une des doctrines fondamentales de l'Église de Dieu. Vous pouvez vous reporter, si vous voulez, à Hébreux chapitre 6. Dans tous les cas, je vais vous lire les versets 1 et 2 de Hébreux 6. « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. » Donc, ce sont des croyances, des doctrines de fondement doctrinal. « Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, repentir, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, parce que nous avons le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu, il y a la vie éternelle et la mort éternelle à la fin de l'histoire. » Et ensuite, il dit « de l'imposition des mains ». Une des croyances de fond de l'Église, des doctrines de fond de l'Église, c'est l'imposition des mains. Et puis, il continue de la résurrection des morts et du jugement éternel. L'imposition des mains montre que Dieu œuvre, il choisit d'œuvrer à travers certains hommes. Et il leur accorde l'autorité d'agir dans son service pour effectuer certaines tâches. Souvent, presque toujours, il s'agit d'un effet de sanctification, de mettre quelqu'un à part pour un usage particulier entre les mains de Dieu. On met quelqu'un à part pour un service à Dieu. L'onction des malades, par exemple. Nous loignons d'huile et le ministère impose ses mains sur les malades. C'est pour souligner le fait que cette personne peut recevoir directement la protection et la guérison de la part de Dieu. Ce n'est pas le cas pour tout le monde dans le monde aujourd'hui. Mais ceux qui reçoivent l'imposition des mains au moment de l'onction, ça souligne qu'ils sont dans une catégorie à part. L'ordination dans le ministère de Jésus-Christ se fait par l'imposition des mains également. On met un homme à part pour un service particulier. Dans le cas d'un diacre ou d'une diaconesse, un homme ou une femme est mis à l'écart, est mis dans une autre catégorie pour effectuer un service particulier. La bénédiction des petits-enfants. Il y a l'imposition des mains. Ça montre que ces enfants ne sont pas comme tous les autres enfants dans le monde aux yeux de Dieu. Ils sont mis à part. Ils sont différents. Au moment du mariage, il y a l'imposition des mains. Pas sur la tête des personnes. Nous joignons les mains droites du marié et de la mariée et le ministre officiant, il impose ses mains sur leurs mains pour demander à Dieu de mettre ces deux personnes dans une catégorie différente. Ils sont maintenant mari et femme, une seule chair, différente de toutes les autres personnes par rapport à la relation qui les unit. Et le baptême. Au moment du baptême, il y a le baptême dans l'eau, et après le baptême, après la partie immersion, il y a l'imposition des mains sur la tête de la personne baptisée, et c'est à ce moment-là, par le biais de ses serviteurs, que Dieu accorde le don de son Saint-Esprit à cette personne nouvellement baptisée. Regardons quelques exemples dans Actes chapitre 8, par exemple. Actes chapitre 8, verset 14. Actes chapitre 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ils avaient reçu le baptême, mais ils n'avaient pas encore reçu la deuxième partie de cette cérémonie, qui est l'imposition des mains. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ça, c'est l'exemple biblique que nous avons. Parfois, nous recevons des courriels de personnes qui veulent protester que ce n'est pas nécessaire d'avoir l'imposition des mains parce que le jour de la Pentecôte, Dieu a donné son Saint-Esprit et les gens n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu l'imposition des mains, ils ont simplement reçu le Saint-Esprit. Et ils disent, Dieu peut faire ça. Tout à fait d'accord. Comme je dis souvent, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de limite sur Dieu. Si Dieu décide de donner son Saint-Esprit à quelqu'un avant l'imposition des mains, il peut le faire. Mais ce n'est pas à nous de décider que c'est comme ça que nous allons le faire constamment. Nous devons suivre les exemples clairs dans la Bible de ce qu'ont fait les disciples. Si Dieu décide de faire autre chose à un moment donné à un autre, Dieu peut faire tout ce qu'il veut, évidemment. Mais en tant qu'Église, nous devons suivre les exemples que nous voyons clairement dans la Bible. Et dans la Bible, ce qui est clair, c'est qu'on reçoit le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains du ministère. Prenons un autre exemple, Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, à partir du verset 5. Actes chapitre 19, verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc, encore une fois, l'exemple, c'est par l'imposition des mains du ministère que Dieu accorde le don du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous pratiquons également. C'est à ce moment-là que Dieu accorde, si on a bien rempli les conditions nécessaires avant, Dieu accorde son Saint-Esprit à ce moment-là. C'est important de comprendre que c'est au moment où nous recevons le don du Saint-Esprit que nous devenons véritablement chrétiens, dans le sens littéral. Nous sommes chrétiens au moment où nous recevons le Saint-Esprit de Dieu, et puis nous devons nous laisser guider, nous devons nous soumettre aux influences du Saint-Esprit. Mais c'est à ce moment-là qu'on appartient à Christ. Romains chapitre 8, regardons. Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous n'appartenons à Christ, à Jésus-Christ, que lorsque nous avons reçu le don du Saint-Esprit. C'est ça qui fait de quelqu'un un véritable chrétien, la présence du Saint-Esprit. Et si nous descendons quelques versets plus tard, il y a un autre caveat qui est mentionné, verset 14. Verset 14 de Romains 8, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si nous n'avons pas la présence du Saint-Esprit en nous, nous n'appartenons pas à Jésus-Christ. Et pour véritablement être enfants de Dieu, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, ne pas lui faire obstacle, ne pas refuser de nous soumettre à ses influences. Et puis, quand nous recevons le don du Saint-Esprit, quand nous nous soumettons à son influence, nous nous laissons guider, il y a une unité vraiment extraordinaire qui devient une partie de nos vies. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. C'est à ce moment-là que nous devenons vraiment une partie du corps de Christ. Autre aspect de cette deuxième phrase. Nous recevons le don du Saint-Esprit et nous devenons une partie intégrante du corps spirituel de Christ. La présence du Saint-Esprit accomplit cela. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, le corps de Jésus-Christ, l'Église. Et quand le Saint-Esprit entre en nous, quand nous recevons ce don, nous faisons partie intégrante de ce corps unique. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Quelle unité magnifique! Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Nous entrons dans cette unité-là, l'unité divine, quand nous recevons le don du Saint-Esprit et nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Et ça, c'est un cadeau, un don merveilleux que Dieu nous donne, que de pouvoir faire partie de cette unité. Un seul, un seul, un seul. Et nous pouvons entrer là-dedans. C'est vraiment, ça nous dépasse. La bonté de notre Créateur de nous permettre d'entrer dans cette relation-là. Troisième phrase maintenant dans l'énoncé de croyance. En se soumettant au Saint-Esprit, on a déjà vu un petit peu, et en acceptant d'être guidés par lui, ceux qui se sont repentis et se sont fait baptiser subissent une véritable transformation dans la vie, dans leur attitude et dans leur façon de penser. En se soumettant au Saint-Esprit, en acceptant d'être guidés par lui, ceux qui se sont repentis et se sont fait baptiser, subissent une véritable transformation dans la vie, dans leur attitude et dans leur façon de penser. Nous sommes en Éphésiens déjà, regardons Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 22 cette fois-ci. Éphésiens chapitre 4, verset 22. Prenons le verset 20 pour ne pas entrer au milieu d'une phrase. C'est en fait à partir du verset 22 que ça nous intéresse particulièrement. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Nous devenons vraiment quelqu'un de nouveau. Nous devenons quelqu'un de nouveau. Nous subissons une véritable transformation dans la vie, comme dit l'énoncé de croyance, dans notre attitude, dans notre façon de penser. Nous avons d'autres valeurs, nous recherchons d'autres buts et d'autres fins dans la vie. C'est cette transformation qui vient lorsque nous recevons le don du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons cela en commun, un même esprit, nous faisons partie d'un même corps. Et c'est une transformation radicale de notre existence. Frères et sœurs, il est important pour nous de comprendre ce que la Bible dit à propos du baptême, sa signification, ce qu'on doit faire pour s'y préparer, les conditions nécessaires à remplir, et ce que le baptême et le don du Saint-Esprit accomplissent dans nos vies. Si vous êtes baptisé, il est important de réfléchir à votre engagement du baptême régulièrement, périodiquement. Dieu nous y oblige au moment de la Pâque, mais ça ne devrait pas être le seul moment dans l'année quand nous réfléchissons à notre engagement. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, que vous entendez ces paroles, si vous voulez mettre votre vie entre les mains de Dieu pour recevoir le pardon de vos péchés, pour recevoir le don du Saint-Esprit de Dieu et de pouvoir entrer dans cette merveilleuse unité du corps de Christ, eh bien, contactez votre pasteur et nous nous efforcerons de vous aider, de vous guider dans votre préparation afin que vous puissiez entrer dans cet engagement vis-à-vis de Dieu dans les meilleures conditions possibles. Revenons maintenant à l'exemple de Ruth, là où nous avons commencé au début de notre étude aujourd'hui. Depuis le moment où Boaz l'a racheté, je l'ai dit au début, Ruth a eu une nouvelle identité, une nouvelle position sociale, un nouveau statut. Je vous ai lu, ce que les témoins ont dit au moment où Boaz a racheté Ruth. Tout le peuple qui était à la porte des anciens dirent: nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Jusque-là, Ruth a été appelée Ruth la Moabite. Je vous donne les références, chapitre 1, verset 22, chapitre 2, verset 6, chapitre 2, verset 21. Elle était connue comme Ruth l'étrangère, Ruth la Moabite. N'était pas israélite. Elle était, à partir de ce moment-là, quand Boaz l'a rachetée, elle était Ruth l'épouse de Boaz, qui allait bientôt devenir la mère d'Obed. Elle était maintenant une personne rachetée, avec un rôle spécial à jouer dans les desseins de Dieu. Les espoirs exprimés par les paroles des anciens au chapitre 4, versets 11 et 12 sont significatifs. L'étaient à l'époque, le sont encore aujourd'hui. Rachel et Léa étaient les épouses de Jacob, les mères des tribus d'Israël. Tamar, comme Ruth, était étrangère. Les habitants de Bethléem étaient des descendants de son union avec Juda, Tamar et Juda. Ruth serait comme Rachel, comme Léa, comme Tamar, jouant un rôle clé dans le plan de Dieu. Avec le recul que nous avons maintenant, nous savons que ces grands espoirs prononcés par les gens, là, au moment de son rachat, n'étaient pas de vains espoirs, car son fils Obed était le père d'Isaïe, qui avait, lui, 8 fils, dont le plus jeune était David, qui devint roi, et dont la descendance inclut Jésus-Christ. L'importance de Tamar et de Ruth est confirmée par leur inclusion dans la généalogie avec laquelle Matthieu commence son évangile. Ruth, la Moabite, est devenue Ruth, mère de David et finalement de Jésus-Christ. La rédemption, comme ce que Boaz a fait, transforme ceux qui sont rachetés. Et au moment du baptême, Dieu opère une rédemption envers nous. Tous les nouveaux chrétiens, au moment du baptême, découvrent qu'ils ont maintenant une nouvelle identité. Ils font partie de l'épouse de l'agneau. Ils découvrent qu'ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes parce qu'ils ont été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Chaque chrétien converti fait partie de la famille de Ruth et de Boaz par le Seigneur Jésus-Christ, à travers lequel Dieu continue d'accomplir ses buts rédempteurs dans l'Église de Dieu. Et un jour, ce sera le cas pour le monde entier. Tout comme Dieu a transformé Ruth pour lui donner une identité exceptionnelle, ainsi en est-il de nous par le baptême, là où Dieu nous rachète. Nous prenons une nouvelle identité, nous devenons véritablement enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ, destinés à un avenir éternel et glorieux dans la famille et le royaume de Dieu. Et Dieu continue, il poursuit son œuvre de rédemption à travers l'œuvre de nos vies également. Qu'il puisse toujours être ainsi.